Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de Savoir, Histoire de Savoir qui aujourd'hui s'est un peu déplacée vers un partenaire de l'ULB, c'est la H2B, donc la Haute École Bruxelles-Brabant, qui est en partenariat donc avec l'ULB par rapport à un projet qui s'appelle Stémentiel, et on va en parler avec vous, Astrid Van Reysen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de sciences à la H2B, donc Haute École Bruxelles-Brabant, et chercheuse pour ce projet Stémentiel, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait, depuis cette année.
Ah, depuis cette année. Donc, c'est neuf.
C'est tout à fait neuf, c'est un nouveau projet.
Et Michael Van Royen aussi est avec nous, professeur de TIC, de TIS, donc de technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et vous êtes également chercheur pour le Consortium 5. Ça fait un peu MI5 ou MI6, c'est quoi?
Exactement. Alors les consortiums sont des groupes de travail qui ont été mis en place par la Fédération, l'ANU Bruxelles, pour développer des ressources permettant d'accompagner les enseignants, donc des ressources qui sont mises à disposition des enseignants. Et ici, je suis dans un consortium qui travaille essentiellement sur un nouveau référentiel de savoir qui arrive dans le cadre de l'enseignement fondamental, l'enseignement ordinaire, fondamental, primaire et début secondaire, qui est le FMTTN, c'est-à-dire la formation manuelle, technique, technologique et numérique.
Voilà, donc ça c'est avec le nouveau fonctionnement de l'enseignement, c'est ça?
Exactement. Avec le pacte pour un enseignement d'excellence, il y a une modification qui se fait également en termes de domaine de savoir. Et un des nouveaux domaines de savoir qui arrive, qui émerge, est ce fameux FMTTN, ce nouveau domaine qui reprend tout ce qui est de l'ordre du manuel, du technique, des technologies de manière générale et de l'intégration du numérique également.
C'est important l'intégration du numérique parce que c'est assez nouveau finalement.
En Belgique, en tout cas, c'est assez nouveau. En France, ça fait déjà quelques années qu'ils le font. Et c'est vrai qu'en Belgique, on avait une guerre de retard par rapport à ça. Ce qui n'est pas plus mal, ça permet en effet de pouvoir mettre en avant des compétences qui ne sont pas encore maîtrisées par les élèves ou qui devraient être développées auprès des élèves pour être un citoyen en adéquation avec la société en fait.
Voilà, et donc on n'a pas dit, mais la H2B, donc Haute École Bruxelles-Brabant, c'est en fait une école, une haute école, qui forme de futurs enseignants, autant maternelle, primaire que secondaire inférieur.
Tout à fait, oui.
Et des éducateurs, mais bon, ça ne concerne pas ce projet-ci. Et donc si on parle de projet stémentiel, c'est parce que ça concerne les STEM. Alors déjà, c'est quoi les STEM?
Alors les STEM, c'est quatre disciplines. Science, Technology, Engineering et Mathématiques. Donc science, technologie, ingénieur, ingénierat et mathématiques. Et donc ce sont des filières qui sont un petit peu en pénurie. On manque de techniciens, on manque d'ingénieurs, on manque de scientifiques. Et donc en fait ce projet a été monté sous l'égide de la région Wallonne qui cherche vraiment des porteurs dans les métiers. Et donc, il manque vraiment de ces techniciens. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient subsidier des projets à mettre en place pour les écoles, pour les enseignants, de nouveau, pour aussi les accompagner, pour que ces matières soient un peu plus travaillées en primaire, pour donner envie, en fait, aux jeunes de devenir ingénieurs, de devenir techniciens, de devenir chercheurs, etc. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et on est subsidié donc par la région Wallonne.
Donc c'est ça, Stémentiel, ça part de STEM, donc de ces quatre
disciplines,
voilà. Et j'ai lu sur la plateforme, parce qu'il y a carrément une plateforme Stémentiel, où on parle en fait donc de réintégrer ou reconnecter les élèves aux sciences, aux technologies et aux mathématiques. Et vous disiez que ce sont des métiers en pénurie. Est-ce que, par exemple, à Defray, donc H2B, on est sur le campus Defray, est-ce qu'à Defray, on voit ça? Est-ce qu'il y a une diminution, par exemple, d'étudiants qui veulent devenir profs de sciences ou de mathématiques On a une idée?
Alors, c'est très cyclique, en fait, hein, les inscriptions. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup dans ces sections-là. Alors, par contre, je crois que cette année, en première, en maths, il y en a beaucoup.
Oui, en maths, il y en a quand même
exceptionnellement,
pas mal.
Il y a
une bonne quinzaine d'étudiants en première, ce qui est quand même
étonnant.
Une belle promotion par rapport au nombre d'étudiants qui sont en sciences au même niveau. Mmh. Et je pense, en effet, que c'est cyclique. Et par contre, on a une nouvelle section qui est dans H2B au niveau dans le pédagogique, qui est justement cette section FMTTN, qui elle est sur le campus de Nivelles et pas de Defray, mais ça reste la même haute école, et qui met en avant ces filières dans la visée de l'intégration de ce nouveau domaine de savoir dans l'enseignement.
On peut d'ailleurs les suivre sur Instagram.
Juste on peut comme les ça, suivre sur passant. Instagram et voir leur pérégrination pédagogique.
C'est assez intéressant parce qu'on les voit faire à manger, on les voit planter, on les voit faire de l'électricité. Et enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un nouveau domaine de compétences. Est-ce que c'est aussi le fait dans le projet stémentiel et donc par ce projet, ce nouveau référentiel FMTTN, est-ce qu'il y a une volonté aussi de toucher aux choses, être plus moins dans la théorie, peut-être plus dans une pratique. Est-ce que vous, dans le projet stémentiel, il y a aussi cette volonté?
Oui, alors dans le projet stémentiel, les ressources qu'on a mises en ligne, en tout cas pour le primaire et secondaire inférieur et secondaire supérieur aussi, sont vraiment des ressources dans lesquelles on met l'enfant en démarche, en réflexion, vraiment de vivre une démarche scientifique pour vraiment pouvoir par lui-même trouver les réponses, s'approprier un savoir, par exemple. Donc c'est vraiment une manière très, très pratique. D'ailleurs, il y a une partie des ressources qui se fondent sur les ressources de la main à la pâte, en fait, hein, parce que le site français de la main à la pâte est un site qui aide aussi les enseignants, du coup, à pratiquer les sciences. Et ils ont vraiment des séquences pédagogiques qui sont très bien faites, dont on s'est inspiré, puisque c'est en Creative Commons, donc on peut les prendre. Et c'est en partie ces séquences-là qu'on a mises à disposition des enseignants sur le site de Stémentiel. Il faut savoir que les ressources ne concerne que le développement durable, le digital ou le spatial, en fait. On a été limité à certains thèmes, et donc on doit développer des ressources dans ces trois thèmes-là.
Ok. Alors, parce que là, on est occupé à parler de plateformes, de ressources, de trois domaines. Concrètement, ça marche comment? Parce que je suppose que c'est pas vous deux et vos collègues qui allez en... Donc vous, c'est plus au niveau primaire aussi, oui. C'est bien ça. Au niveau de frais, donc c'est primaire. Je suppose que c'est pas vous qui allez en classe vous amuser avec les petits élèves de primaire.
Non, c'est dommage. Hein. Non, alors l'idée, en effet, dans un premier temps, c'était de fournir les ressources pour qu'elles soient les plus accessibles à l'enseignant. Donc tout est détaillé, on remet bien les objectifs, les compétences, le public cible, on fait un petit résumé de l'activité, et puis ils ont tout le déroulement précis, donc à suivre le déroulement pour donner la séance aux enfants. Et il y a évidemment une partie aussi en lien avec les métiers, puisque le but c'est de susciter un petit peu la passion pour les métiers. Donc chaque activité est en lien. Par exemple, il y a une activité sur un peu développer l'esprit critique des enfants à partir d'une photo d'un ours polaire affamé sur la banquise. Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique? Voilà. Et donc, il y a toute une mission qu'il doit suivre. Eh bien, après, ben, on leur fait découvrir qu'ils peuvent devenir glaciologues ou biologistes. Ou, voilà. Et on les ouvre un petit peu au métier, puisque c'est quand même la ressource. Mais le but, c'est vraiment que l'enseignant puisse directement prendre la ressource telle qu'on l'a mise sur le site et la développer, la faire réaliser avec les enfants directement.
Alors, j'ai été voir sur le site parce qu'évidemment, j'étais curieuse. Il y a moyen de faire un robot en papier.
Voilà, c'est pour le secondaire inférieur, tout à fait, avec des petits micro-bits qu'ils peuvent programmer pour pouvoir faire bouger le robot. Oui, tout à fait. Et la réalisation est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment un petit bonhomme rectangulaire, en carré. Voilà.
Et la vidéo fait 8 minutes. Hein. En fait, il y a des vidéos aussi pour accompagner. Suivant le, oui. 8 minutes la vidéo. Voilà. Tout fait.
Hein. Donc, on a adapté en effet les ressources au public. Donc, en fait, de frais, donc moi qui travaille ici à l'H2B, moi j'ai développé les ressources pour le primaire. On a un autre partenaire qui est la Scientothèque. Il faut le souligner aussi, qui, elle, développe les ressources pour secondaire inférieur, et l'ULB, c'est-à-dire le service de physique de l'ULB, qui, elle, intervient pour le secondaire supérieur.
Ok. Donc voilà, c'est comme ça que en fait, ça crée une plateforme où finalement...
On est partenaires, tous ensemble. Oui.
Mais tout le monde, en fait, n'importe quel citoyen, citoyenne, peut aller et peut télécharger, peut regarder, peut accéder
au menu,
au tutoriel, je sais pas, voilà, aux activités,
tout ce qu'il y a.
Il y a moyen de tout,
oui,
tout télécharger. Pourquoi, comment ça marche alors?
En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas que les écoles qui sont visées, il n'y a pas que les enseignants, on vise aussi les associations, genre les écoles de devoirs ou les associations, les maisons de quartier, tout ça, qui peuvent alors aussi participer en fait au projet. Et l'idée, c'est que dès qu'un groupe fait une des activités, ils nous envoient une petite vidéo, un PowerPoint, enfin ils nous montrent un petit peu comment ils ont vécu l'activité, et on les met en relation avec un spécialiste, un professionnel en fait des STEM, un scientifique, un chercheur, un ingénieur, qui va venir en classe ou dans l'association parler de son métier et répondre aux questions des enfants. Donc c'est vraiment un projet, c'est-à-dire que l'école, enfin, le groupe n'a qu'à faire une activité et on leur donne accès à la venue d'un professionnel qui va venir parler avec eux, avec les enfants.
Donc voilà, il y a un accompagnement en fait de votre part qui est donc...
On fait le lien. En fait, nous sommes aussi la plateforme où on fait le lien avec les professionnels. On met en relation l'enseignant qui veut avoir une visite et le professionnel qui peut venir.
Et quand vous disiez que c'était que vous étiez donc chercheuse au niveau du projet stémentiel pour au niveau primaire depuis cette année, en fait le projet existe depuis cette année ou vous l'avez rejoint cette année?
Non, il n'existe que depuis le 1er octobre 2023.
Donc c'est vraiment tout neuf.
On a répondu à un appel à projet en mars l'année passée. Ça a été accepté et donc ils ont cherché les personnes pour à ce moment-là participer et travailler dans le projet. Et donc moi je suis rentrée dans le projet le 1er octobre.
Mais donc le projet existait déjà avant?
Non, il a démarré le 1er octobre.
Parce que quand on voit le nombre de ressources, c'est assez impressionnant.
On a bien travaillé.
En se disant que c'était juste... Et donc vous, par rapport, donc Michael Van Royen, par rapport à ce consortium 5, quelle est votre action finalement dans ce projet stémentiel?
Alors moi, mon action... Elle n'est pas directe dans le projet stémentiel, mais on a quand même pas mal de travail collaboratif qui se met en place, étant donné que nous travaillons en fait au même endroit et que nous avons également avec les collègues du stémentiel, mais également du labo LabSTEM, le laboratoire, le Fab Lab de Nivelles qui est mis en place par Philippe Skilbeck.
On a qui aurait dû être aujourd'hui, mais ça n'a pas se déplacé jusqu'à Bruxelles.
Et qui lui est à l'initiative d'ailleurs de ce Fab Lab et qui en est le gestionnaire et autres. On a travaillé ensemble sur le printemps des sciences, sur la création d'activités, et je travaille avec Philippe Skilbeck sur pour le consortium 5 justement pour la création de ces activités. Et donc là, par contre, la démarche est un tout petit peu différente dans le sens où moi je vais dans les classes. Donc l'idée ici, c'est de créer des activités aussi, de prévoir des activités qui font le lien avec ce référentiel, mais qui sont tellement liés au STEM que finalement on travaille quasiment, on travaille les mêmes types de compétences et la même vision dans pas mal de choses. Et donc, moi je vais dans les classes de primaire, j'étais encore ce matin dans les classes de primaire, pour tester des activités afin de les réguler et de proposer à des enseignants des ressources qui sont existantes, qui ont été testées, qui ont été validées d'une certaine mesure et qui permettent justement d'essayer de faciliter le passage à ce nouveau référentiel qui est ce FMTTN dans le cadre des nouvelles grilles de cours qui vont arriver au fur et à mesure. Et avec, pour répondre à votre question, peut-être justement, avec Astrid, on a eu l'opportunité de travailler ensemble sur le printemps des sciences. Et donc, on a mis nos points de vue et nos visions qui sont en général relativement complémentaires ensemble pour pouvoir créer des activités. Et donc, il y a un échange qui se fait qui se fait en fait presque par défaut au niveau des ressources. Et comme les ressources sont partagées via un même labo de travail et un même type de personnes qui y recherchent, bah automatiquement, ce qui est proposé pour stémentiel peut venir du C5. Et à contrario, il y a probablement aussi des choses dont on va s'inspirer au fur et à mesure des discussions qui vont nous permettre d'alimenter la réflexion et la création de ces ressources.
Décidément, on entend printemps des sciences. Donc ça, c'est une semaine, de sciences.
Oui, et c'est organisé par les universités là, en fait. C'est les universités qui ont chacune un bureau scientifique, un bureau qui essaye de aussi conscientiser les jeunes à l'importance des sciences. Il y a un Fort Sciences pour l'ULB notamment. Ils se sont fédérés tous ces bureaux d'UNIF francophone évidemment pour créer une semaine des sciences. Ça fait de mal, quand même pas mal d'années qu'elle existe. Je sais plus sous l'égide de quel ministre ça a démarré, mais enfin voilà, il y a un ministre qui a donné quand même son impulsion à ce moment-là. Et là, c'est vraiment permettre à plein de jeunes, et quand je dis jeunes, c'est de la troisième maternelle au secondaire vraiment, de vivre des activités un petit peu différemment, hein, souvent beaucoup plus pratiques aussi que ce que parfois l'enseignant peut faire en classe, et leur faire voilà découvrir les sciences un peu autrement sur une thématique, puisque chaque année le printemps des sciences a une thématique.
Et donc on envoie de frais d'ailleurs, c'était la semaine passée. C'était il y a quelques semaines, puisqu'on enregistre cette émission, on n'est pas du tout en direct. Et que donc, Defray est envahi à ce moment-là de prépubère. Moi, j'appelle ça comme ça tout d'un coup, en fait.
Oui, c'est tout à fait ça, puisque les étudiants de première en sciences et de maths, donc de, on va dire master en enseignement actuellement maintenant, qui sont en sciences et en maths, sont amenés à travailler avec une ASBL qui est les petits débrouillards, une super chouette ASBL avec qui on a l'opportunité de travailler, qui va former et aider à créer des animations scientifiques avec nos étudiants. Et nous, on va, dans le cadre de leur formation d'enseignants, leur faire créer une activité qui est dédiée à leur spécialisation. Donc ceux qui sont en sciences vont rester uniquement évidemment en sciences. Ceux qui sont en maths vont devoir s'approprier une activité scientifique et devoir la présenter et en créer une en maths et de manière vraiment à faire vivre ces activités tout au long de la semaine à un nombre d'écoles qui est assez important quand même tout au long de cette semaine.
Et donc on voit vraiment il y a un point d'attention qui est mis vraiment sur les sciences aujourd'hui. Est-ce que c'est la société qui crée ça aussi? Est-ce qu'on est dans une société plus scientifique, plus numérique bien entendu, mais aussi plus scientifique aujourd'hui, et que cette formation à la science est nécessaire et peut-être délaissée par les écoles parce que peut-être les enseignants n'ont pas les ressources suffisantes pour sauf ceux qui sortent de frais.
Mais ils ne se sentent pas capables. En fait, ce qu'ils disent souvent, c'est on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des scientifiques. Et donc, ils ne se sentent pas très à l'aise dans ces matières-là. Donc, ils ont moins tendance à les... En tout cas, en primaire, puisqu'en secondaire, là, ils ont quand même une formation en région de la science, où ils ont fait bio, chimie ou physique à l'UNIF. Donc ça, c'est quand même un peu différent. Mais les enseignants du fondamental disent toujours, ben non, mais je suis pas tout à fait à l'aise parce que je connais pas tout en sciences. Et c'est vrai que les sciences, ça devient complexe. Enfin, il y a beaucoup de matières différentes, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est vrai que c'est tout ce qui nous entoure, les sciences. Finalement, on regarde autour de nous, ben, il y a toujours un concept scientifique derrière, même une cafetière, une bouloire, enfin voilà. Et donc, ils se sentent parfois un petit peu démunis. Et on le sent bien pendant leur formation ici, quand je forme des instituts primaires, ben, s'ils ont pu passer des obstacles en vivant des activités, en devant en préparer, tant qu'ils étaient encadrés, tant qu'ils étaient sous la supervision d'un prof qui peut vraiment les aider, d'un didacticien des sciences, ben, ils ont plus facilement envie de faire des sciences après quand ils seront professionnels. Et donc, je me rends bien compte que c'est vraiment nécessaire qu'on l'en fasse un maximum temps pendant leur formation pour après les libérer un petit peu de ces freins qu'ils ont finalement, qui sont des freins parfois juste psychologiques, mais qu'ils ont parce que les médias aussi transmettent cette idée que les sciences c'est compliqué, l'ingénieur. Alors oui, il y a des choses compliquées, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut comprendre facilement autour de nous avec peu de choses, peu de matériel, des bouchons, des plastiques, un cure-dent, enfin voilà. Il y a moyen de faire des sciences avec peu de matériel pour faire comprendre des concepts qui paraissent difficiles, a priori.
C'est pas sorcier, par exemple.
Mais c'est génial. Bah, eux, ils ont des maquettes super, par contre. Hein.
Il y a un making-of qui montre comment ils font les maquettes, c'est fabuleux.
Ah oui.
Ouais,
ah oui,
c'est assez impressionnant. Ça. Avec aussi de foirer, hein, quoi, des bouchons, des
oui,
trucs.
Oui, oui, oui.
Mais voilà, c'est une façon de vulgariser les
oui,
sciences.
Tout à fait.
Niveau numérique, c'est pareil aussi. C'est parce que quand même, le robot, c'était quand même...
Ah oui, oui, c'est vrai que le coup du robot... Mais en effet, ça permet de montrer que... Ça permet de voir ce qu'il y a dans la boîte noire qui fait que le robot, l'automate, le thermomix, on en parlait encore là tout à l'heure, ou n'importe quel objet connecté fonctionne. Et de comprendre que c'est pas de la magie, mais d'essayer surtout de voir comment on peut communiquer avec un robot, avec un objet technologique, d'apprendre à comprendre un peu ce qui se passe derrière, et de manière tout à fait simple pour montrer et démystifier un petit peu ces objets-là. Et passer par des objets, par le codage et l'apprentissage du codage chez les enfants peut parfois paraître en effet quelque chose qui semble extrêmement complexe, alors qu'en fait, avec des instructions très simples, il y a moyen déjà de faire des déplacements à un robot, de créer des pinces qui vont prendre des objets en appuyant sur des boutons, mais de manière très très simple, avec trois capteurs et deux Lego, hein, un peu de choses près, et de montrer et de faciliter peut-être cette appréhension du monde qui nous entoure, sans imaginer que non, moi je ne suis pas capable de le faire, je suis pas capable de comprendre ce qu'il y a derrière, parce qu'il faut être un ingénieur, il faut être un grand scientifique pour arriver à même réparer peut-être potentiellement un mixeur qui fonctionne à deux vitesses, quoi.
Ouais. Oui, et c'est permettre aussi aux jeunes d'apprendre la logique en fait qui est derrière. Mmh. Et une fois qu'ils ont compris cette logique, eh bien tout prend sens et ça devient beaucoup plus facile pour eux de comprendre les objets qui les entourent parce qu'ils ont compris la logique en fait.
Bah, vous entendre en fait les sciences et le numérique, c'est super facile.
Ben oui.
Alors, c'est pas forcément facile.
Abordable.
Il faut savoir, voilà, c'est abordable. Il faut savoir par où passer. Et justement, il y a des gens qui ont réfléchi à des activités très faciles, très, très simples d'abord, pour que les enseignants qui ont l'impression qu'ils sont nuls en informatique, ben, se disent, ben non, finalement, je peux leur faire comprendre la logique d'un codage avec un petit lutin qui doit chercher un trésor dans un dédale et il y a simplement une feuille quadrillée et on va aider le petit lutin à se déplacer, on va lui apprendre des instructions. Et c'est ça la base d'un robot, c'est lui donner des instructions pour qu'il se déplace. Et puis après, ben, on va devoir utiliser un langage que comprend le petit lutin. Enfin, voilà. Et on est dans le codage et on est dans la compréhension de ce que fait un robot, quoi.
À part votre petit lutin qui cherche un trésor, vous avez des exemples de ressources qui sont disponibles, de je sais pas, moi j'ai envie d'appeler ça des expériences parce que comme on est dans le truc scientifique, on dirait que c'est on peut dire que c'est comme des petites expériences.
Il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont réfléchi à tout ça. Donc il y a la fondation La Main à la Pâte, mais on a en Belgique aussi une ASBL qui s'appelle Hypothèse, qui est basée à Liège et qui est composée de professeurs de l'école normale de Liège et d'enseignants du primaire et des maternelles. Et qui chaque année élaborent des projets, par exemple sur l'isolation d'une maison. Il y a tout un projet qu'ils élaborent, qu'ils testent avec des enseignants dans les classes, avec les élèves. Et puis, ils élaborent une petite brochure. Et voilà, si on veut parler de l'isolation avec les enfants, ben, il y a la petite brochure qui est là pour nous guider, pour nous donner les idées de quelles questions poser aux enfants, de les mettre dans quelle situation pour qu'ils découvrent ben, la notion d'isolant de conducteur, d'une matière. Enfin, voilà. Il y a plein d'outils. Alors, voilà, il faut savoir où chercher parce que comme il y en a plein, voilà, c'est parfois un peu...
Mais justement, sur cet émancier, vous avez un exemple de...
Ah, moi, c'est la Fondation La Main à la Pâte pour les primaires. C'est vraiment elle qui m'a... Oui, que j'ai utilisé
mais
au départ.
Mais c'est ça, mais vous... Oui, mais voilà, mais vous créez les vôtres, en fait.
Alors, non, je prends celle de la Fondation La Main à la Pâte et je la mets à la sauce belge, hein, si je puis dire, donc avec le lien vers les référentiels pour que nos enseignants se disent « Ah ben oui, si je fais cette activité-là, ben, j'ai vu telle et telle compétence ou telle et telle attendue des référentiels, des nouveaux référentiels, évidemment. Ben, ça les rassure parce qu'ils savent qu'ils font quand même une partie du programme. Mais en même temps, ça les rassure aussi parce qu'ils ont tout l'enchaînement logique, toute la succession logique d'activités et c'est plus eux qui doivent imaginer... Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'en sont pas capables. Et donc, en leur donnant ces ressources, ben ça démystifie aussi pour eux un petit peu. Et ils osent plus facilement se lancer aussi dans l'activité, en fait.
Oui, et pour appuyer ce que vient de dire Astrid, au niveau du numérique, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement des enseignants qui osent se lancer grâce à certaines ressources. Parce que ça leur permet aussi de voir comment fonctionnent certaines manières de fonctionner pour pouvoir après ben, quitter complètement les ressources existantes, créer ses propres ressources et arriver à rentrer dans la logique qu'est cette réflexion scientifique ou cette réflexion logique qui parfois pose problème pour pas mal d'enseignants. En tout cas, surtout pour les jeunes enseignants, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le cadre de la formation, évidemment. Et donc, c'est très riche, très dense et difficile de tout maîtriser. Et puis, en fonction des affinités, évidemment.
Alors, moi, je me demandais pourquoi est-ce que c'est juste trois domaines, donc le domaine spatial, le développement durable et le digital. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, la physique ou la bio ou...
Parce qu'on veut, pas être dans, justement, dans la théorie. On veut être dans des thèmes, moderne, enfin, pas à la mode, oui, actuel, voilà, c'est pas à la mode, mais actuel, nécessaire, enfin, pour comprendre son environnement et donner, du coup, des clés de lecture, en fait, de ces domaines-là avec ces ressources. Parce que les profs de, en tout cas de secondaire, bah, ils ont fait une formation en bio, en chimie, en physique, et ils sont mieux armés que nous, enfin, je veux dire, ils sont spécialistes de leur domaine. Donc, c'est vraiment plus dans la démarche, dans les liens avec le programme, dans une forme de démarche et de sortir un petit peu justement des cours théoriques et des cours je dois suivre le programme, non là je vais ouvrir l'esprit des élèves, je vais les faire réfléchir à une problématique et je vais leur permettre de vivre vraiment une activité en réfléchissant un petit peu différemment de d'habitude en fait.
Réfléchir autrement que d'habitude, est-ce que c'est amener une nouvelle forme d'enseignement aussi ou pas?
Alors, c'est un peu ce qu'on appelle les pédagogies actives, c'est quand on met les enfants en situation devant un problème, c'est eux qui émettent les hypothèses pour résoudre le problème et puis qui vont devoir émettre eux-mêmes les expériences à mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on a, enfin, moi en tout cas, que j'ai, comment dire ça, organisé les ressources pour qu'il y ait un maximum qui viennent des élèves. Et c'est vrai que si on leur apprend à réfléchir et puis à trouver les ressources pour répondre à leurs questions, ben, ils apprennent toute leur vie. Et on développe le sens critique à ce moment-là. On développe l'esprit critique. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ce que je devais faire. C'est j'ai réfléchi par moi-même. Je me suis dit que peut-être en faisant ça, ça allait marcher. J'essaye de faire comme ça. Ah non, ça marche pas. Je rectifie et je vérifie une autre fois, une deuxième fois, etc. Et là, on aide en fait le citoyen, hein, parce que c'est ça. On doit former des citoyens solidaires, actifs, critiques, responsables. Voilà. Hein, c'est le décret mission de 97. De 1997, l'autre siècle, précisons. Et c'est ça, moi je suis persuadée que toutes ces matières-là, toutes ces innovations, enfin non, toutes ces, comment dire ça, tous ces projets, et puis même cette façon d'enseigner les sciences, va plutôt former l'esprit des élèves, parce que c'est pas... Le remplir, ça sert à rien, la réponse sur Google, il la trouve. Je veux dire, la réponse de la formule du mouvement rectiligne uniforme, il la trouve, on s'en fiche, voilà. Ça n'a pas d'importance, c'est facile à trouver. Par contre, comprendre comment la voiture a un mouvement rectiligne uniforme, si on n'a pas testé, si on l'a pas vu, si on n'a pas chipoté, non, ça reste de la théorie. Et donc, former l'esprit des enfants à réfléchir par eux-mêmes et à mettre en place ce qui va permettre de confirmer ou pas leurs hypothèses, on leur donne les outils, en fait, pour comprendre la vie, pour comprendre leur environnement et pour apprendre toute leur vie.
Vous avez mis le point sur le MRU-MRUA, qui a été quand même le point noir de mes études en physique, parce que justement, je ne comprenais pas, je ne voyais pas les choses. Donc, ça me fait beaucoup plaisir que vous en parliez et de dire qu'on arrive justement maintenant peut-être à mieux expliquer. Vous parlez tantôt de remplir l'élève. C'est comme ça qu'on pensait avant, c'est plus comme ça qu'on pense maintenant.
Non, plus du tout. Ça ne sert à rien, parce que l'élève se remplit de par cœur, de choses qu'il a apprises par cœur, mais qu'il n'a pas comprises. Donc, dès que la mémoire n'est pas entraînée, ben, c'est oublié. Parce que ça n'a pas été construit, c'est pas un savoir qui a été construit. C'est un savoir qui a été ajouté à d'autres choses, comme ça, plic-ploc, sans lien aussi. Si un enfant peut faire un lien avec ce qu'il a déjà appris, ben, il va l'accrocher beaucoup plus facilement, il va l'intégrer, hein, comme on dit, beaucoup plus facilement. Et puis, il va construire par lui-même son savoir, puisqu'il va chercher par lui-même la réponse, la ressource, l'expérience qui va lui permettre de confirmer ou pas ses hypothèses. Et donc, ça va s'inscrire durablement, puisque ça fait partie de son propre cheminement de pensée, en fait.
Eh bien, voilà, parce que là, c'est ce qu'on appelle donc les pédagogies actives. C'est Defray, d'ailleurs, s'inscrit dans ces pédagogies actives. C'est comme ça que vous enseignez aux futurs enseignants.
On essaye.
Oui, on essaye au maximum. Et le but, en effet, est d'essayer de mettre en avant, dans la manière de fonctionner, mais surtout pour les futurs enseignants, une manière de mettre l'élève le plus acteur possible de ses apprentissages. Or, ça fait bien beau, bien pompeux comme phrase, hein, on est tout à fait d'accord. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus actif possible, qu'il soit relativement critique aussi par rapport à ce qu'il peut apprendre, ce qu'il peut voir. Et je pense que ça a d'autant plus de sens actuellement parce que le savoir est accessible partout. Avec justement ces nouvelles technologies, avec l'accès facilité à Internet, quel que soit l'âge maintenant, un peu de choses près, bah, les élèves ont accès au savoir. L'enseignant n'est plus là pour faire passer et transmettre un savoir, mais au contraire, pour pouvoir être là pour accompagner à la construction de ces savoirs, dans un premier temps, mais aussi d'être critique par rapport au savoir qu'il va rencontrer. Alors, je ne vais pas dire critiquer automatiquement ce qu'il va aborder, évidemment, mais apprendre à confronter les sources, à les comparer, et puis émettre des hypothèses, comme le disait Astrid, et continuer toujours dans cette démarche scientifique, mais également critique. Donc, ils vont lui permettre systématiquement de faire des allers-retours entre la manipulation, la construction, la recherche d'informations. Et c'est là que nous pensons que le rôle de l'enseignant est, c'est qu'il est davantage là comme guide, comme accompagnateur. Et bien entendu, il met les balises, il doit être au courant, il doit savoir plein de choses, évidemment. D'où la complexité aussi de ce rôle, hein, d'enseignant, qui est, je pense, de plus en plus exigeant. De par ça, mais qui est important de pouvoir guider les élèves et de les rendre les plus acteurs possibles.
Oui, il est bien entendu aussi qu'à un moment, on va formaliser le savoir quand même.
Oui, bien entendu.
Donc, ils ont été dans une démarche et à un moment, il y a une mise en commun de ce qui a été fait et ensemble, ou parfois même d'abord individuellement, l'enfant, bah, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux conclure de tout ce qu'on a fait. Et puis, évidemment, l'enseignant est là pour valider ce savoir, bien entendu.
Oui, il y a quand même la théorie.
Voilà.
Oui, non, c'est pas un monde de bisounours, même si ça aurait été génial. Mais en effet, c'est pas l'élève qui apprend tout seul, qui se débrouille absolument pas.
Et non, il faut vérifier ce qu'il a appris, en fait, quand même.
Exactement, et c'est là qu'est le rôle de l'enseignant. C'est ce que je voulais dire dans le cadre de l'enseignant doit avoir ses savoirs, pouvoir les baliser, afin justement, en effet, après de circonscrire ce qui a été abordé et de le formaliser avec les élèves, tout à fait.
Ouais. Et donc, ce projet, Stémentiel participe à cela. Alors j'ai vu aussi que, au-delà de la rencontre avec les professionnels que vous disiez, Astrid Van Reysen, c'est que il y a aussi un événement qui va se dérouler. Il y a un concours par tirage au sort. Donc il y a vraiment une accroche.
Oui, on avait envie de terminer l'année par une rencontre en fait où les classes allaient venir en fait présenter leur ce qu'ils avaient réalisé en fait comme activité. Et donc on a toute une journée qui va se passer à la nouvelle université de Charleroi, là, les nouveaux bâtiments, où le matin ce seront les primaires. Donc on ne sait pas accueillir tous ceux qui vont participer. On a 100 classes qui sont inscrites, donc on ne sait pas les accueillir toutes. Maintenant, en même temps, c'est le 2 juillet, donc Voilà, ça n'intéresse pas tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la dernière semaine d'école. Ouais, c'est encore l'école, tout à fait, tout à fait. Donc, on a choisi quand même la date en fonction, en se disant quand même qu'ils pouvaient encore se libérer. Mais comme, évidemment, on touche Bruxelles et toute la Wallonie, bah, évidemment, Charleroi, c'est un peu central, mais bon, tout le monde ne pourra pas venir. Mais donc, à ce moment-là, on voulait pas faire un concours où on va prendre le meilleur. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas de sens. Nous, ce qu'on a envie, c'est qu'ils osent faire des activités. Donc, on va pas aller à la fin dire, ah ben, toi, c'était bien, toi, c'était pas bien. Donc, ça, c'était hors de question. Mais on avait envie de récompenser quand même voilà, la participation. Et donc, on va faire un tirage au sort, évidemment. Et ceux qui ont envie de venir présenter, ils auront, je sais pas, 5-10 minutes de présentation de leur projet, de leur activité. Ce n'est même pas un projet, de leur activité. Ils pourront venir parler de ce qu'ils ont fait. Alors, l'après-midi sera pour le secondaire inférieur et le secondaire supérieur. Et le soir, aussi, de nouveau, une conférence avec des modérateurs et voilà, et un public, tous ceux qui veulent venir, en fait, et qui auront participé de près ou de loin au projet. On a envie qu'il y ait un événement final pour un petit peu. Alors, final, on espère qu'il sera pas final.
Oui, c'est ça, c'était ma question suivante, c'est très
voilà,
bien.
Parce que nous venons de rentrer le 15 mars un nouvel appel à projet, puisque la région wallonne a réembrayé.
C'est par an, en fait, c'est annuel.
Voilà. Oui, alors, sauf que celui-ci, le nouveau, ce serait pour 2 ans. Voilà, donc c'est très intéressant quand même pour nous aussi, parce que ça permet quand même de voir plus loin. Et donc, on a proposé le projet Sémantiel Plus, avec toujours le même hub de ressources, évidemment, mais en insistant bien sur le fait que, ben, il fallait le temps que les écoles connaissent et qu'ils aient envie de s'inscrire dedans. Enfin, voilà, il faut leur laisser le temps et nous de faire la publicité. Et avec cette idée, du coup, que la deuxième année, on les accompagnerait aussi. C'est-à-dire qu'on irait rencontrer les enseignants qui sont un peu frileux pour rencontrer leurs demandes, leurs freins. On pourrait aussi leur prêter du matériel. En fait, je vais d'ailleurs déjà le faire mi-mai. Je vais rencontrer une classe parce que l'enseignante avait envie de faire découvrir les robots. Et on travaille avec les robots Timio, mais en libre accès aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les Lego, ben, ça reste la marque Lego. Donc voilà, Timio. Et donc, je vais lui prêter 6 Timio pour que ces petits bouts de première, deuxième, là, vraiment des petits, primaires, donc, puissent découvrir c'est quoi un robot, en fait. Il ne répond qu'aux instructions qu'on lui donne. Si on le programme mal, ben, il va rien faire ou il va tourner sur lui-même alors qu'on voulait qu'il avance, etc. Et donc, là, ben, elle a juste besoin qu'on lui prête les robots, que je vienne un peu discuter avec elle de ce qu'elle peut faire. La ressource est sur le hub, mais je sais bien que quand on a l'impression qu'on ne connaît pas, c'est très difficile, même pour moi, j'ai l'impression que la ressource est évidente, est claire, mais voilà, il y a parfois ce frein, et il suffit qu'on leur dise, qu'on les accompagne, qu'on les rencontre une fois. J'ai déjà aussi eu une visio avec un enseignant, et après, à la fin, il me dit, ah oui, mais je vois bien ce que je peux faire, et il était tout à fait enthousiaste et prêt à rejoindre le projet. Donc voilà, il suffit parfois de pas grand chose pour vraiment leur permettre de se lancer dans les activités. Et donc ça, c'est vraiment notre but l'année prochaine, continuer les ressources, bien sûr, les amender en fonction des retours qu'on a des enseignants, parce que c'est ça aussi l'intérêt, et puis les accompagner au maximum, suivant leurs besoins.
Donc là, on croise les doigts, parce que sinon, en fait, le projet s'arrête, mais plateforme reste.
Alors là, la plateforme reste, évidemment, mais on n'aura plus personne pour l'amender, pour la faire vivre. Donc, ce serait dommage.
C'est quasi d'utilité publique, en fait.
Ben, on a l'impression, oui. Enfin, nous, on est persuadés. Hein,
Mais oui.
Et on a essayé, par notre descriptif, de persuader la région wallonne, mais... Voilà, c'est
bon,
elle qui a
on croise les doigts alors, de voilà. toute façon.
Oui.
Et comment est-ce que les enseignants sont au courant de l'existence de Sémantiel?
Mais c'est nous qui devons faire des appels sur Facebook, des séminaires, on fait des webinaires, on fait voilà.
Des émissions radio.
Voilà, des émissions radio, tout à fait. On a aussi fait venir la télé aussi et la radio. Il y a eu à Braine-l'Alleud, il y a eu une animation et donc voilà, on a fait de la publicité de ce côté-là aussi. À Marche-en-Famène, on est allé aussi travailler avec une classe secondaire. Donc voilà, on essaye tous les canaux de communication possibles parce que voilà, nous on n'a rien à vendre, c'est gratuit.
Ouais,
on n'a qu'une envie, c'est d'aider les enseignants à pouvoir développer ces matières-là dans leur classe, parce qu'on sait que c'est porteur et on sait que ça va vraiment aider les enfants, vraiment les jeunes à former leur esprit. Donc c'est vraiment, on est persuadé de l'intérêt didactique des choses.
Mais carrément. Et alors, bah justement, là, faisons la pub. Comment est-ce qu'on peut accéder
Ah ben, on va sur le site www.stemantiel, donc T-I-E-L.be, et on est tout de suite en lien. On peut aller regarder les ressources, on peut aller voir comment s'inscrire, on peut aller voir quelles sont les finalités du projet. Donc, il y a différents onglets qui sont intéressants à voir.
Je confirme. Et tout est en libre accès.
Oui.
Chaque fois que vous avez accès à un drive, vous pouvez tout télécharger en doc, en PDF.
Voilà, en Word ou en PDF, parce qu'on s'est dit qu'en Word, ça permettait à l'enseignant qui a envie de modifier, d'enlever une partie, d'ajouter une de ses parties, de reprendre la leçon telle qu'elle, mais de la modifier à sa sauce. Et donc, le Word est disponible aussi, ou le PDF, s'il préfère. Le charger en PDF.
Et si vous n'êtes pas enseignant, allez voir aussi. Et si vous avez des enfants ou pas, ben vous pouvez même faire ça à la maison.
Tout à fait. Il y a des choses tout à fait faisables à la maison aussi, bien sûr.
Voilà. Eh bien, Astrid Van Reysen et Michael Van Royen, merci en tout cas pour cette émission. Je ne vais pas dire d'être venu dans cette émission, vu que c'est l'émission qui est venue quasi à vous.
Merci de vous être déplacé.
Voilà, oui, merci.
Enfin, c'est pas comme si je n'étais pas de la maison non plus. Voilà, donc on était en faux direct depuis la HE2B de Fray pour ce projet STEMentiel. Et vous aurez donc toutes les infos aussi, si vous voulez, sur Mixcloud, donc qui est la plateforme de podcast des émissions de Radio Campus. Merci à vous et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt. Thank you.